Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 162 de la French Connection. Aujourd'hui avec moi, j'ai Steve.
Salut. Bonsoir. Steve.
Et Virginie.
Allô.
Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, donc on va parler du Framework for Effective Corporate Communication After Cyber Security Incidents. Donc, dans le fond, un framework sur comment faire la bonne gestion d'un incident et toute sa communication. Et c'est une recherche et une lecture que Virginie a fait. Donc, je te laisse introduire le sujet, puis après, on va embarquer dans le vif.
Oui, c'est ça. Alors, bonsoir. Moi, je suis tombée là-dessus par hasard, au courant, là, je fais souvent comme un survol de l'actualité. Puis, celle-là, elle a attiré mon attention. J'ai trouvé ça sur le site de Register. Donc, c'est vraiment une recherche scientifique qui a été réalisée par deux universités, donc deux professeurs qui œuvrent dans deux universités différentes en Angleterre. Puis eux autres, ils se sont penchés sur comment une entreprise devrait communiquer après qu'elle ait été victime d'une brèche de sécurité. Puis là, on s'entend, c'est vraiment une brèche là de type malicieuse et non pas comme par erreur ou mauvaise manipulation, par exemple, des employés. Donc, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, il n'y a aucun système qui est totalement sécuritaire. Ça, je pense que à date d'aujourd'hui, on est pas mal fixé pour s'entendre là-dessus. Puis les organisations, puis les compagnies devraient toutes se préparer là pour le jour J. Donc, quel discours qu'ils vont prendre pour contacter finalement leur client, puis leur client, leur partenaire pour leur annoncer malheureusement là, une divulgation de leurs données. Donc,
c'est vraiment un problème parce que, je veux dire, si on regarde les nouvelles, comme tu viens de faire mention, c'est à tous les jours ou presque qu'il y a une brèche, qu'il y a des ransomware, qu'il y a des attaques. Fait que c'est un processus qui est super important, puis c'est vraiment bien là d'aller de la recherche qu'ils ont fait, là, puis je pense que c'est super important qu'on en parle.
Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, leur étude est disponible là, pour j'ai lu l'article, c'était en fin du mois de septembre, c'était disponible pour 50 jours. Donc, les gens qui vont sur le site là, de je pense que c'est Direct Science, ils ont l'article complet pour 50 jours, toute la recherche. Puis c'est ça, là, c'est vraiment intéressant là, de savoir comment qui sont venus finalement à construire le framework. Fait que moi, j'ai bien aimé leur approche. Là, plus que je lisais au travers de ça, plus que je voyais que c'était sérieux, qu'il y avait eu énormément de rigueur. Eux autres aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé plusieurs cas, évidemment, puis pour déterminer finalement c'est quoi la meilleure façon de réagir par rapport aux clients, aux partenaires puis aux autres parties prenantes là, quand il y a une brèche de données. Ensuite de ça, ben c'est ça. Donc, ils ont fait des entrevues, ils ont préparé un modèle qui va nous guider à bien nous préparer puis à bien réagir. Ensuite de ça, ben là, c'est ça. Là, ils parlent de différents cas, tout ça. Donc, par exemple, eux autres, vu que c'est en Angleterre, donc ils se sont penchés... Tous les cas qu'ils ont analysés, c'est des cas qui ont touché des résidents de l'Angleterre. Puis là, il est question, entre autres, du groupe TalkTalk en 2015, qui a touché 4 millions de personnes. Donc ça, c'est un peu comme un opérateur de télévision, d'Internet, de cellulaire. Donc c'est quand même assez majeur dans le pays. Puis c'était la troisième fois que c'est arrivé dans la même année. Donc là, les gens, tu sais... Il y a une dame, là, la CEO, qui faisait une entrevue, puis là, les gens lui demandaient, ben, là, elle disait, on va vous contacter par courriel. Puis là, les gens disaient, ben, comment qu'on va être capable de différencier votre courriel, par exemple, d'un courriel frauduleux, par exemple, pour changer le mot de passe. Puis là, ben, elle savait comme pas vraiment quoi répondre. Elle a répondu un peu n'importe quoi. Puis là, ben, la confiance des clients a vraiment comme crashé, puis ça a eu une super mauvaise image pour la compagnie. Ensuite de ça, elle avait pas assez d'informations pour répondre aux questions qui lui étaient adressées. Puis aussi, ils ont engagé, d'après ce que j'ai lu, là, des frais punitifs pour les clients qui voulaient quitter la compagnie. Fait que là, finalement, c'était comme tout joué contre eux autres. Là. Ils ont vraiment mal géré ça. Fait que ça, c'est un des cas qu'ils ont analysé dans la recherche. Donc, le modèle, il a été développé, il a été évalué par des spécialistes, puis il a été réajusté par la suite. Donc, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est quoi une crise? Donc, eux autres, ils se sont fiés sur une définition qui vient de Mitroff, je sais pas c'est qui, c'est un professeur de l'Université de Californie du Sud. Puis, ce qu'ils disent pour une crise, c'est que il faut que ça ait des conséquences graves. OK? Donc, à partir du moment qu'il y a une brèche de données qui touche un certain nombre d'utilisateurs, on peut se dire que oui, ça va avoir des conséquences graves pour ces gens-là. Ensuite de ça, c'est une probabilité faible. On sait que ça va probablement arriver, comme je vous disais, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. Donc, c'est un événement quand même assez unique pour une compagnie. Je veux dire, oui, il y en a à tous les jours qui touche différentes compagnies, mais pour une même compagnie, c'est pas supposé d'arriver souvent. Ensuite de ça, ben, il y a le facteur temps qui joue contre les gens qui prennent des décisions, les gens qui prennent des communications. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans la recherche. Par exemple, il faut prendre le devant puis annoncer la brèche de données, mais en même temps, il faut avoir les bonnes informations, les informations justes, parce que si on se trompe la première fois qu'on prend la parole, ben là, évidemment, tout ce qui est confiance, là, ça prend une grosse drop. Mais en même temps, si on attend trop, ça va sortir des médias. Puis là, on va se faire bâcher. Fait que c'est comme une balance entre les deux, là. Fait que c'est ça, le temps joue contre eux. Donc, encore un autre élément pour définir une crise. Évidemment, aussi, ça a un impact là, sur les opérations normales. Et puis, c'est ça, ça atteint aussi la réputation. Là, bien, ben, c'est ça. Oui.
Justement, que tu es plus loin, il y a quand même un facteur assez important. C'est que souvent, dans des cas sérieux, il y a absence d'information parce qu'ils n'en connaissent même pas la cause dès le début. Et ce que j'ai trouvé aussi à travers le temps, c'est que en Amérique du Nord surtout, ils vont encore agir à cacher la vérité. Donc, la sécurité par l'obscurité. Alors qu'en Europe, bien, de plus en plus, on voit des grands cas qui arrivent et qui prennent les devants, comme tu dis, mais en même temps, ils se cachent pas. Ils savent que la vérité va sortir éventuellement. Donc, j'ai toujours en tête comme exemple l'aluminerie Norse, qu'eux autres se sont fait rentrer dedans par un ransomware et sont allés devant les caméras, ils ont dit « Regardez, voici ce qui nous arrive, on vous revient dans 72 heures parce qu'on n'a pas la réponse. » Comme de fait, parce que c'est dans la RGPD, le Règlement général de la protection des données personnelles en Europe, c'est dit que tu as 72 heures pour annoncer que tu as un événement qui vient impacter des gens. Puis après ça, ben documente puis après annonce qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est ce genre d'avenant-là qui vient intéressant de pouvoir l'intégrer ici éventuellement puis créer cette culture-là puis arrêter de se cacher.
Oui, c'est ça. C'est comme ça aussi là, que le modèle fonctionne. Ils disent vraiment qu'il faut prendre les devants puis il ne faut pas essayer de cacher ou de minimiser la situation, quitte à, comme vous dites, de dire, bon, écoutez, il y a une situation présentement, on ramasse les détails, mais en même temps, de revenir par après, c'est comme un peu si la situation était hors contrôle. Bien, souvent, c'est le cas, mais en même temps, ça laisse un peu une impression, c'est justement de perte de contrôle là, pour le client. Ça peut être un peu capoté, surtout quand on sait que nos données sont impliquées. Là.
Définitivement.
OK. C'est ça. Donc, là, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de trouver dans la littérature les meilleures pratiques en communication. Donc, vraiment, là, la théorie. Fait que là, ils ont utilisé une méthode là, en utilisant bon, divers mots-clés pour chercher dans une banque de données. Puis là, ils ont trouvé différents articles. Fait qu'ils sont partis de 3516 articles pour, après ça, aller à 197, à 152, puis finir avec 45 articles là, qui traitaient de la littérature. Puis il fallait que ça soit une source crédible puis qui datait pas d'avant 2009. Là. Donc, on voulait quelque chose de quand même assez récent. Puis les thèmes là, de la communication, il fallait que ça touche, par exemple, les communications de temps de crise, donc les marchés boursiers. Donc, c'est ça, tu sais, c'est quoi l'impact que ça a sur les marchés boursiers. Et évidemment aussi, toute l'obligation de déclaration, parce que c'est pas nécessairement toujours obligatoire de déclarer tout dépendamment là, de la juridiction, des données qui sont touchées. Donc, puis aussi les autorités de protection là, par rapport à un domaine particulier. Après ça, ils se sont penchés sur comment qu'on doit construire un message. Fait que ça, on va voir ça aussi. Donc, ils disent de toujours simplifier la situation pour la rendre compréhensible pour les parties impliquées, évidemment. Puis d'autres items, ben c'est ça, ça a un impact émotionnel négatif là par les victimes. Là. Donc, ça dépend toujours aussi de où ce que ce que les victimes ressentent, ça dépend de l'étape où ce que la crise allait présentement. Puis aussi le blâme, ils disent de pas diriger le blâme vers des partenaires ou vers des fournisseurs, ils disent que ça, on devrait pas faire ça. Puis bon, aussi de tout ce qui est sous-traitance par rapport aux brèches de données. Donc, si par exemple, moi j'ai une compagnie, puis je subis une brèche, puis j'ai un fournisseur, pas un fournisseur, mais un third party avec qui que j'ai envoyé les données, c'était connu, tu sais. Je veux dire, quand les utilisateurs, mettons, faisaient affaire avec moi, je disais par exemple d'accepter les termes, ils lisaient en diagonale ou ils ne lisaient pas, ils acceptaient, ben là... lui, si il faisait quelque chose d'autre avec les données aussi, ou si c'est lui qui subit une brèche, ben là, faut tout faire la chaîne là-dedans justement pour que tout le monde soit conscient de ce qui se passe puis les impacts que ça a, puis que la communication fasse son cours. Ensuite de ça, il a analysé donc différents cas qui se sont produits entre le 23 septembre 2016 puis le 3 mai 2019. Fait que c'est vraiment récent. Il a analysé 128 cas. Puis sur ces 128 cas-là, il y a 229 références. Fait que là, eux autres, ils ont analysé les références pour savoir est-ce que c'était des références crédibles, genre des commentateurs, donc des spécialistes en sécurité. Il y avait aussi des rapports gouvernementaux là-dedans, des agences de nouvelles, des compagnies de sécurité, puis même la compagnie, les compagnies même qui étaient victimes. Eux autres, ils ont commenté les événements. Puis eux autres, ils ont... Finalement, l'université, dans leur recherche, ils ont tout analysé les commentaires qui ont été dits. Puis après ça, bien, ils ont validé aussi genre les sites web des commentateurs. Est-ce qu'il y avait des bonnes réputations? Est-ce que c'était les premières analyses qu'ils faisaient ou est-ce que c'était des gens ou des entreprises qui étaient habituées à faire des analyses? Quel type de rapport qu'ils faisaient? Par exemple, Brian Kerbs puis Troy Hunt, ils faisaient partie aussi là, des commentateurs qui ont été retenus. Puis tout le framework, dans le fond, ils se sont basés un peu sur les recommandations qu'eux autres faisaient pour certains cas.
Fait que dans le fond, ils utilisaient ça pour analyser l'impact PR sur Internet, si on peut dire, ou...
Oui, ben c'est ça. Eux autres, c'était pour savoir, par exemple, ben mettons dans le cas de telle brèche de sécurité, la compagnie, comment qu'elle a réagi. Ben là, les commentateurs, souvent, par exemple, dans les nouvelles ou au travers de Twitter ou dans des rapports, ils vont dire, ben là, la compagnie, mettons, a mal géré ça. On a passé une semaine sans que les systèmes soient disponibles. On savait même pas ce qui se passait. Ben là, eux autres, tu sais, mettons, ils vont dire, ben si la compagnie avait réagi comme ça, l'opinion publique aurait été différente, les gens auraient été moins en panique. Puis il y a tout aussi, comme je disais tantôt, ça, c'est le côté, mettons, plus client, mais il y a tout le côté boursier aussi. Là, des fois, ben, tu sais, il y a un crash, puis là, ça a toutes sortes d'impact aussi au niveau du commerce, et etc.
Parfait.
Mais bien souvent aussi, il y a des obligations légales de devoir amener toutes ces informations-là au public. Et j'en ai connu beaucoup de compagnies, moi, qui ne le font pas systématiquement.
Oui, c'est ça. Moi, c'est pas quelque chose que je connais énormément là au niveau du légal. Mais, tu sais, bon, je pense qu'il y a même déjà eu ici un avocat qui était venu au podcast. Là, j'avais écouté le podcast. Puis là, c'était l'année passée. Patrick, peut-être ça va te dire quelque chose. C'était Nicolas qui était là, puis il venait parler comme d'une loi là, qui venait de changer, puis que les compagnies avaient plus de responsabilités. Là.
Ouais, exact. Avec Jean-François Dorico, voilà. C'est une nouvelle loi qui est en place, mais l'application, je te dirais, qui est plus ou moins là encore, en tout cas au Québec. Je sais pas trop si on est rendu à où et il faudrait un update sur ça, mais ça s'en vient bien, mais on n'est pas là encore.
C'était une loi canadienne, hein, je pense, qu'elle avait présentée.
Oui, exact. C'est juste que le pouvoir descend aux provinces, de la manière qu'ils l'appliquent, etc. Fait que là, t'as une loi qui dit que t'es obligé de dénoncer les brèches et autres problèmes de sécurité. Mais comme on voit dans les nouvelles, je veux dire, il y en a plein de brèches qui sortent souvent, puis la majorité du temps, ils n'ont pas suivi cette loi-là, donc elle n'est pas enforcée, mettons.
OK. Bon, c'est ça. Fait que là, eux autres, après ça, ils se sont penchés pour trouver c'était quoi les facteurs déterminants, donc selon les commentateurs, les évaluateurs, lors d'une communication. Là. Donc, c'est quoi les facteurs qui vont faire en sorte que ça va avoir un impact, là, la communication. Donc, il faut que ça soit crédible. Comme par exemple, il y a Troy Hunt qui citait un exemple qu'il avait fait une compagnie, là, je me souviens plus du nom, elle avait fait 10,5 millions de recettes parce qu'il y aurait eu 150 comptes qui auraient été... qui aurait eu des problèmes, ben là, tu sais, il y a quelque chose qu'ils nous disent pas, là, tu sais, pour 150 comptes, ils vont forcer 10,5 millions d'utilisateurs à changer leur mot de passe. Tu sais, il faudrait que ça, au niveau de la crédibilité, ça l'a pas, là. Tu sais,
il est pas fort, là.
Non, c'est ça, il manque des données, là. Fait que ça, c'est un exemple de communication qui marche pas. Ensuite de ça, ben rejeter la faute sur les partenaires, ça aussi, comme je disais tantôt, de pas faire ça. Souvent, ça a des grosses répercussions au niveau des médias. Là, les médias se mettent à poser des questions. Ensuite de ça, ben ils disent qu'il faut valider les déclarations. Si, par exemple, je fais une déclaration pour ma compagnie, ben il faut que je sois certaine que ce que je dis, c'est vrai, parce qu'il y a du monde qui va s'occuper de le faire à ma place. T'sais. Fait que ça, c'est super important. Donc, c'est ça, les partenaires. C'est ça, il faut pas retarder trop la divulgation. Donc, encore une fois, comme j'expliquais tantôt, le facteur temps, c'est important. Il faut focusser sur le client parce que c'est lui qui est touché. Je sais que la compagnie, elle a perdu de l'argent, sa réputation est atteinte, la bourse, ça va mal, mais il faut surtout que quand elle prend la communication, un des facteurs déterminants, c'est qu'il faut qu'elle focus sur le client. Il faut que le client comprenne que la compagnie prend ça au sérieux puis qu'elle prend des dispositions pour arranger la situation, pour comprendre ce qui s'est passé puis pour le protéger exactement. C'est ça, il faut aussi qu'elle démontre la compagnie qu'elle travaille avec les autorités. Donc, il faut qu'elle dise, par exemple, que oui, elle a fait une plainte à la GRC ou qu'elle a entamé des démarches avec la police pour finalement trouver qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, finalement, qu'elle soit pas toute seule à s'occuper de ça, que le légal soit impliqué.
Mais impliqué, c'est important aussi de le faire avant, d'en parler avant aux policiers d'intervenir, comme certaines institutions financières ont fait récemment.
Oui, j'y ai pensé aussi.
Oui, exact. Puis l'autre point, est-ce qu'il mentionne de dire qui avec qui on travaille? Tu sais, souvent, les firmes qui n'ont pas de personnes en sécurité vont engager une partie tiers pour faire l'analyse de la brèche. Est-ce que ça mentionne de dire, ah, on fait affaire avec telle compagnie ou juste on fait affaire avec une compagnie, peu importe?
Ben eux autres, ce qu'ils disent, c'est que parce que quand on arrive dans le framework, il y a comme une portion de préparation avant que l'événement arrive. Puis là-dedans, ils disent de commencer déjà à faire des recherches puis à approcher des compagnies de spécialistes pour que quand ça va arriver le jour J, qu'on sache déjà qui qu'on va contacter, à la limite qu'on ait même une assurance ou un contrat. Donc, c'est ça, les gens qui ne disposent pas des ressources, bien qu'ils soient capables finalement de les rejoindre rapidement puis que ça soit tout de suite fonctionnel.
D'accord. Puis au côté public, on est-tu supposé de mentionner ça?
OK, de dire, mettons, c'est avec qui
qu'on travaille. Ouais, je travaille avec X, ouais. Non, c'est pas mentionné direct.
Okay. C'est vrai, c'est un bon point, puis je pense que je ne l'ai pas vu dans le framework.
Ça reste un point avec un certain intérêt, tu sais, parce que souvent, tu vas voir, on en a vu récemment, là, j'ai plus les noms, mais telle compagnie a subi une brèche, on a fait affaire avec une entreprise. L'entreprise nous a dit de faire ça. Puis là, le cas que je fais référence, c'est un récent que ce que la compagnie a dit de faire n'avait aucun sens. Fait que là, je me dis, ben, faudrait peut-être qu'ils disent avec qui ils travaillent. Mais non, c'est un bon point, ouais.
Donc, c'est ça. Maintenant, on va attaquer le fameux modèle, le framework. Donc, c'est ça. Le modèle est divisé en deux parties. La première partie, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant que la situation se produise. Puis ensuite de ça, ben là, on rentre vraiment comme dans la réponse pendant la crise. Donc, avant, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose de se pencher sur, de réfléchir sur c'est quoi nos priorités. Si, par exemple, on subit une brèche de données ou dans la communication, c'est quoi notre objectif? Est-ce qu'on veut protéger le sujet? Est-ce qu'on veut protéger les parties prenantes, les partenaires? Est-ce qu'on veut minimiser les dommages sur notre réputation? Est-ce qu'on veut le faire parce que on a des obligations légales ou c'est parce qu'on veut minimiser les impacts sur notre business? Ça fait que ça, c'est différents objectifs. Puis tout dépendamment, c'est quoi l'objectif qu'on va avoir? Ben, on n'aura pas nécessairement les mêmes réactions là, pendant la crise. Ensuite de ça, une autre affaire qui est bien importante avant que ça arrive, c'est qu'il faut connaître c'est quoi nos vulnérabilités. Donc, c'est important de faire des audits, de connaître c'est quoi les risques. Tu sais, des fois, par exemple, il y a des risques résiduels qui sont acceptés, mais encore faut-il les connaître, ces risques-là, puis surtout que les dirigeants en soient conscients. Évidemment aussi, tout ce qui touche l'hygiène, de la sécurité informatique, il faut qu'il y ait une bonne hygiène, évidemment, dans une compagnie. Tu sais, on essaye là, de tous les bons mécanismes, là, d'appliquer la MFA, on va faire une surveillance aussi de l'open source intelligence sur la compagnie, sur les employés aussi. On va essayer d'utiliser des bons mécanismes, des bons algos d'encryption, d'être à jour. Donc ça, c'est toutes des choses qui doivent être faites avant. non pas pour, ben oui, pour empêcher, mais également pour que les gens soient au courant, pour pas qu'on aille, pour pas que si l'événement arrive, ben que là, on n'aille aucune information. Je veux dire, si on sait même pas comment que nos données sont chiffrées, parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas été joué là-dedans, parce que c'est un fournisseur qui nous a mis ça en place, ben c'est pas bon. Faut qu'on ait l'information. Donc aussi, ce qui est important de savoir, c'est avant la crise, évidemment, encore, on est encore dans cette partie-là, c'est il faut qu'il y ait une équipe qui soit mise sur pied. Puis il faut qu'il y ait une genre de base de données, de connaissances sur toutes les informations qui sont requises, pour gérer la crise et les communications. Donc, pour faire ça, il faut que l'information soit disponible même s'il y a une crise. Fait que là, mettons que, je sais pas moi, il y a un ransomware puis toutes les données sont chiffrées, mais là, il faut s'arranger pour que tout ce qui est par rapport à la communication pendant la crise soit disponible ailleurs. Fait que ça, il faut y penser avant. Aussi, ce qui est important, c'est que si, par exemple, on a offert des communications par courriel, on se soit arrangé pour pas que ça tombe dans les spams des gens. Là, parce que là, ça va être l'enfer. Là, on va dire, ah ben là, checkez dans vos courriers indésirables, on vous a envoyé un lien pour resetter votre mot de passe ou des choses comme ça. Ça, c'est toutes des choses qui sont à voir avant, puis à faire des tests, puis s'assurer finalement que ça va fonctionner au moment où on en a vraiment besoin.
Virginie?
Oui.
À ces moyens de communication-là, je peux pas m'empêcher de penser que si jamais ça n'en vient, faut penser toujours dans des compagnies, exemple, qui ont, qui ont des devoirs de rapporter les incidents, mais en même temps, faut que ça soit fait avec une certaine forme de diligence pour pas mettre à risque la réputation de la compagnie pour rien. Et je rentre là-dedans, la confidentialité de l'information, donc d'utiliser des moyens non sécures pour transmettre de l'information, surtout en temps critique. Ça, c'est à considérer avant que l'incident arrive et surtout l'avoir pratiqué, s'assurer que c'est les bons moyens, identifier les bons moyens, c'est-à-dire pour communiquer cette information-là, parce que l'envoyer sur un texto, ça veut dire que beaucoup de gens potentiellement peuvent l'intercepter, juste pour donner une idée comme ça, que comment est-ce que c'est pas sécure. Donc, c'est pour ça que les intervenants, les équipes, les dirigeants, ben, devraient être sensibilisés à cette affaire-là. Je le sais très bien, il y en a qui vont dire, ben, en cas de crise, il faut prendre tous les moyens nécessaires pour se rejoindre. Vrai, mais ce serait peut-être bon de penser à une forme de confidentialité lorsque c'est le cas, parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un début de transmission pour indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans l'organisation. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire une soirée, ils interceptent ces informations-là, puis après ça, ils partent des rumeurs. Fait que ça peut être plus destructeur envers la compagnie que la résolution elle-même de la crise. Fait que c'est pour ça que des organisations qui ont des intérêts publics à protéger, ben faut qu'ils considèrent ça.
Oui, c'est un bon point, puis c'était pas écrit. Puis, tu sais, vous le dites, puis ça fait vraiment du sens. Là, c'était pas écrit. Je pense que vous pourriez leur soumettre l'idée pour la prochaine révision. Ça serait... non, mais c'est vrai, ça serait un super bon point.
Puis l'autre point, c'est ce que tu as dit, c'est le tester le processus.
Oui, avant.
Le framework qu'il y a là, il est vraiment awesome, mais si personne le teste avant un vrai incident, ça donnera sûrement pas des très bons résultats, comme peu importe les processus de incident response, de continuité, relève, etc. Là, c'est le même concept.
Dans la section Prevent, il mentionne encore là de faire une collecte d'informations, mais Perform Regular Rehearsals and Testing est mentionné. Mais encore là, c'est juste le processus, le step-by-step à suivre et non pas valider les moyens de communication.
Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, ils disent aussi de se préparer comme un site web là, qui pourrait être activé là, pendant le temps d'une crise. Là. Ça, c'est quelque chose aussi à prévoir avant. Puis, tu sais, comme déjà une FAQ qui serait disponible, une hotline. Donc, déjà tout prévoir ça d'avance pour quand que ça va arriver, bien que ça soit prêt. Parce que s'ils commencent à être obligés de gérer ça pendant la crise, c'est épouvantable. Là,
tu parles, Virginie, d'un site à l'externe de l'organisation que là, tu as juste besoin de faire rediriger les DNS vers ce site-là.
Exactement. Ben un peu comme, tu sais, je pense par exemple à Garmin. C'était ce qui est arrivé. Eux autres, il y avait comme plus rien qui marchait pantoute. Ben il y avait quand même un site web qui disait que finalement que leur, tu sais, présentement, là, il y avait des problèmes. Puis de revenir plus tard. Puis je pense qu'il y avait une section aussi là, avec des questions puis des réponses. Fait qu'au moins, les gens qui vont sur le site et qui sont redirigés vers un site temporaire, ben au moins, ils ont des réponses. Là.
Exact.
Donc. Ensuite de ça, ben là, comme vous disiez, Steve, eux autres, ils proposent vraiment de faire des répétitions, des pratiques, puis d'intégrer tout ça dans le BCP, là, Business Continuity Plans. Là, fait que ça, c'est comme une notion là, des plans de continuité, là, ça le dit.
Mais le mot le plus important, c'est vraiment regular. Régulièrement faire les tests, pas une fois aux quatre ans. Là.
Ben, c'est régulier, ça, Pat, d'une fois aux quatre ans. Là. Ouais. C'est là pour définir la régularité.
Une à quatre fois par année, on parle de régulier. Yes.
Oui, puis le personnel change aussi. Tu sais, c'est pas les mêmes personnes qui sont impliquées. Fait que...
De différentes organisations, différentes cultures de travail. Fait que ça amène des méchantes adaptations, effectivement.
Oui, exact. Puis, tu sais, une fois par quart, une fois par demi-année, au minimum une fois par année, si vous n'êtes pas dans ces ranges-là. C'est sûr que la rétention, le monde qui change, les process, l'oubli simplement. Puis ça va pas juste pour ce plan-là, tu sais, pour peu importe les incidents respond, les plans que vous avez, la relève, etc. Si vous les faites pas régulièrement, ça va se perdre.
Mais pour une PME, ça a aucun sens de faire ça deux, trois fois par année.
Ben, la différence en PME, c'est que souvent, ça va être un service tiers qui paye pour qu'il le fasse. Ouais, ben tu sais que pour que la relève, toute leur backup soit relevé ailleurs, je veux dire, ça sera pas une équipe interne qui va tout gérer. Mais encore là, faut que dans le contrat, ça, quelque part, ça soit écrit qu'il faut que ça marche, faut que ça ait été testé, tu sais. Mais je suis pas expert dans ce genre de contrat-là, mais j'espère qu'ils puissent le tester une fois par année au moins.
Mais ça revient à ce qu'on dit, faut que ça soit défini avant.
Oui, puis même au niveau du contrat, là, on parle de loin, là, c'est très, très d'avance.
C'est ça.
Que, je pense que c'est le plus gros point de ce framework-là, c'est le pre-event. C'est tout ce qui est avant, ce qui est la majorité du monde, non pas, et s'organise live sous la pression, ce qui est dangereux et compliqué, là, Virginie dit. Ouais.
Puis c'est ça, un dernier point là, dans les pré-événements, c'est tout ce qui touche les contrats, comme j'en ai parlé précédemment. Là. Donc, de s'assurer qu'il y a des clauses au contrat, s'il y a une brèche de données, là, qui est responsable de quoi, puis c'est quoi le plan de match avec les fournisseurs, puis si nous, on est fournisseurs de quelqu'un aussi. Là.
Ben Virginie, donc, tu sais, au Québec, personne n'est responsable de rien. Là. Ça nous touche pas.
Ouais, ben là, avec ce framework-là, il va y avoir des enfants qui vont changer, j'imagine.
Bon, un autre projet de loi. Bon.
Donc là, on rentre dans la deuxième partie du framework. Là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pendant la crise. Donc, la première information qui est importante, c'est de décider est-ce qu'on divulgue ou on divulgue pas. Bon. Fait que là, pour prendre cette décision-là, il faut avoir des informations. Premièrement, savoir c'est qui est affecté. Est-ce que les données étaient suffisamment encryptées? Bon, là, ça là-dessus, je pense que j'aurais écrit un autre chapitre. Eux autres, c'est comme juste une phrase. Mais tu sais, suffisamment encrypté pour maintenant, tu sais. Mais tu sais, dans 5 ans, ça va-t-il être encore suffisant? On le sait pas, tu sais. Fait que ça, ce bout-là, je pense que c'est pas mal discutable. Ensuite de ça, ben il y a combien de données qui sont affectées. Donc c'est quoi la grandeur de la brèche? Puis aussi, ben est-ce qu'il y a des règlements là, qui sont spécifiques à l'industrie? Donc là, après ça, ben il faut prendre en compte les juridictions. Comme je disais tantôt, là, c'est ça, là, tout ce qui est les régulations là, pour des industries. Puis ben là, tout dépendamment de ce qui découle de ça, là, on va savoir si c'est obligatoire ou pas. Si c'est pas obligatoire, ben là, il faut se poser des questions plus éthiques. Est-ce que c'est la bonne chose à faire de pas le dire, tu sais?
Non.
C'est ça l'affaire. Est-ce qu'il y a des risques que les données se ramasse sur le dark web plus tard. Est-ce que ça se pourrait, par exemple, qu'il y ait un délateur qui, par en arrière, aille le dire, puis que finalement, ça vienne complètement scraper notre image de la compagnie? Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut prendre en compte, même si légalement, on n'est pas tenu de divulguer. Fait que ça, c'est, je trouve ça intéressant qu'il apporte ce côté-là éthique, puis en même temps, tu sais, calcul de risque, là, tu sais, OK, pour tout de suite, c'est ça qui est le moins compliqué, mais à long terme, ça peut avoir des impacts quand même sur le, tu sais, c'est comme un squelette dans le garde-robe, là.
Oui, exact. Attendre quelques jours, ça peut être bien, mais attendre un an, ça peut être d'autres choses.
Exact. Puis après ça, ben, il faut décider qu'est-ce qu'on divulgue. Donc, OK, oui, si on a décidé qu'on divulguait, OK, ben là, on va, qu'est-ce qu'on va divulguer? Donc, il faut s'assurer de vraiment savoir, justement, au niveau légal, qu'est-ce qu'on est obligé de dire ou pas. Tu sais, fait que ça, faut prendre le temps de bien le cerner. Ensuite de ça, ben, faut dire, tu sais, par rapport aux victimes, par rapport aux humains, aux personnes, est-ce qu'ils sont affectés? Est-ce que c'est quoi qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu sais, eux autres. Puis après ça, ben, ils disent, ouais, c'est ça, de faire attention pour ne pas sous-estimer la brèche. Puis ça, ça revenait souvent dans la recherche. Dans plusieurs cas, les compagnies avaient tendance à dire, ah ben, c'est 1 million de comptes. Puis là, ils revenaient, ah ben là, ils mettaient à jour, ben là, finalement, c'est 4 millions. Puis là, ils revenaient plus tard, ben là, c'est 15 millions. Fait que ça, ils disaient que à chaque fois, finalement, les victimes repassaient par un processus de, tu sais, qui avait l'impression de s'être fait avoir finalement. À chaque fois qu'ils prenaient le micro pour annoncer qu'il y avait plus de victimes, ben, tu sais, ça avait des impacts. Fait que, tu sais, ils disaient, ben, ouais. Tu sais, assurez-vous que si vous dites un chiffre, que c'est le bon, quitte à le dire un peu plus élevé pour vous protéger.
Pour revenir, puis aussi dire, on le sait pas encore, on est en train d'investiguer, c'est mieux de dire c'est 20 personnes, mais au final, c'est 2 millions. Hein. Il y a des bonnes manières de faire les choses.
Après ça, on rentre.
Je vais juste amener, Virginie, d'après ce que tu dis, Pat, tu dis c'est mieux de dire un chiffre plus petit que plus gros?
Non. De dire que tu ne le sais pas versus dire un plus petit et au final, c'est un plus gros.
Ben, c'est ça.
Moi, j'irais comme on a vécu la fuite de l'institution financière au Québec l'an dernier, ben, il aurait été mieux de dire tout y a passé. Puis reviser à la baisse après.
Oui,
finalement, c'est rendu la moitié de ce qu'on vous a dit. Ça, me semble, c'est plus encourageant pour les victimes.
Oui, qu'à chaque 6 mois, avoir des chiffres qui augmentent. Là.
Ben,
ouais, c'est ça, parce que finalement, c'était tout le monde.
Oui, exact.
Bon, ensuite de ça, ben, comment qu'on va construire le message? Donc, la première affaire qui est importante, puis ça, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, c'est d'accepter la responsabilité. Donc, l'entreprise, quand elle va faire sa communication, faut qu'elle soit franche. Écoutez, on est responsable de l'événement qui se passe, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important parce que la compagnie, dans le fond, c'est la gardienne des données. Donc, il faut qu'elle donne des excuses aux clients. Ça, c'est majeur, c'est vraiment important. Puis, on dirait que moi, de ce que j'ai vu, ça arrive pas si souvent que ça que l'entreprise va s'excuser. Après ça, c'est ça, il faut pas minimiser. Il faut adresser les sentiments de vulnérabilité que les clients peuvent ressentir lors d'une brèche de données. Donc, il faut qu'il y ait un côté humain dans leur communication. Ensuite de ça, bien évidemment, là, ça c'est à la mode aussi beaucoup, là. Donc ils vont offrir par exemple du monitoring pour le crédit des clients qui ont été touchés. Il faut faire attention, comme je disais, de ne pas blâmer les autres. Donc si on blâme par exemple des groupes de hackers, ben ça leur donne de la... comment on dit ça?
La notoriété, ouais.
Ouais, c'est ça. Puis si on blâme les partenaires, ben là, c'est au niveau public, là, les gens n'aiment pas ça, là. Ça. Les gens vont être... ça donne pas une bonne impression.
Et pour appuyer, Virginie, ce que tu dis aussi, l'attribution d'une à qui est la faute ou à qui a fait l'attaque est très difficile à prouver parce que très souvent, ceux qui font justement des actions négatives, ils vont s'assurer de créer une diversion. Puis à ce moment-là, laisser des pièces à conviction qui vont laisser la faute sur une autre personne ou potentiellement pointer dans une autre direction alors que c'est vraiment pas là, il faut regarder. Fait que ouais. Ça, c'est très difficile, c'est très circonstanciel, le mot que je cherchais, de faire en sorte que d'appuyer tout de suite sur le bouton blanc et dire « Ah, ça, c'est sûr que c'est ce gang-là. »
Oui, mais l'attribution, c'est rare que ça va se faire lors de la communication.
Il y en a qui sont venus sur le piton là-dessus, je te dis.
Ah oui? OK.
Oh, que oui! Oui,
puis souvent, c'est plusieurs années après que quelqu'un va faire une erreur, puis là, tu te rends compte que finalement, 4 ans avant, c'était sa faute à lui.
C'est ça.
Il y en a qui veulent vraiment se disculper puis dire tout de suite que, tu sais, shifter le blâme, autrement dit, mettre le spotlight sur ailleurs que sur leur situation. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai vu beaucoup de compagnies, moi, qui l'ont fait, ces attributions-là, juste encore là, ben, des fois sur le vent d'une rumeur pour faire créer diversion, enlever l'attention sur les médias.
Ben, selon le framework, il ne faut pas faire ça, puis ça marche
non,
pas.
Non, exactement. Ça vient, comme dit Patrick, ça vient te recroquer par la suite, ça, là.
Oui, c'est ça. Puis, ils disent aussi, quand on construit le message, donc, qui va être envoyé là, aux gens qui ont été touchés, c'est important de considérer des facteurs aggravants. Par exemple, là, est-ce que c'est déjà arrivé? Tu sais, mettons qu'on contacte les clients, puis c'est la troisième fois qu'on les contacte là, pour leur dire, là, comme dans le temps, dans le cas de Talk Talk, que c'est la troisième fois dans l'année qu'ils subissent une brèche de données, bien là, il va falloir framer le message comme du monde. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est un facteur aggravant. Après ça, c'est ça, tu sais. Il faut être prêt aussi à se faire challenger. T'sais. Est-ce que le plan de l'organisation il était si bon que ça? Est-ce que l'organisation était super bien protégée? Après ça, est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est qui a découvert la brèche? T'sais? Est-ce que la brèche a été découverte par un third party? Comment ça a été? Comment que la compagnie, elle s'en est rendue compte? T'sais? Parce que c'est pas toujours une rançon. Là. Des fois, c'est les données sont sur le dark web, puis c'est Damien qui nous contacte pour nous dire.
Oui, exact. Ça, des fois, c'est le gars de Google, Taviso, whatever, Troy Hunt, qui va releaser une publication disant « Hey, telle compagnie a un bug », puis ça part de là.
Oui, c'est ça. Ils disent aussi de considérer le public. C'est quoi leur... au niveau culturel, tu sais, c'est quoi leur culture, c'est quoi leur sexe, c'est quoi leur âge? Leur genre, tu sais, des hommes, des femmes. Fait que tout dépendamment là, de toutes ces caractéristiques-là, ben le message ne sera pas composé de la même façon. Puis ils disent aussi là, que les jeunes générations, là, ils vont être pas mal moins impressionnés par un crédit, par un monitoring du crédit que, mettons, du monde de 50 ans. Là. Fait que ils disent de prendre ça en considération là, dans le message. Ou dans les. Dans les mitigations là, pour essayer finalement de récupérer ces clients-là. Donc aussi, il va falloir dire comment que la compagnie travaille avec les forces de l'ordre pour essayer d'amener ça en justice. Ça va être quoi les prochaines étapes? Puis, c'est ça. Ça fait pas mal le tour pour cette étape-là. Puis après ça, ben c'est quand qu'on va divulguer. Fait que là, encore, c'est ça, la balance de temps, le facteur temps. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est le plus rapidement possible, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que ça pourrait sortir dans les médias. Puis là, ben, si ça sort dans les médias, là, d'habitude, ça se passe pas bien parce qu'on contrôle pas qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est mieux que le message sorte de la compagnie même. Sinon, c'est pas mal des affaires que j'ai déjà dit. Puis après ça, ben là, la compagnie doit choisir comment qu'elle va divulguer. Donc, il y a des méthodes directes et des méthodes indirectes. Si on regarde les méthodes directes, ben en fait, une compagnie pourrait décider, premièrement, d'utiliser les deux méthodes, directe et indirecte. Elle communique de toutes les façons possibles pour que les clients soient avertis, parce que c'est ça qu'on veut ultimement. Bon, il y a l'opinion publique, mais il y a surtout les données des clients. Là. Eux autres, c'est important qu'ils soient au courant là, que leur numéro d'assurance sociale, leur date de naissance, leur carte de crédit, tout ça, c'est dans les mains, finalement, de quelqu'un qui ne devrait pas les avoir. Donc, dans les méthodes directes, il y a ce qui est courriel. Fait que, tu sais, chaque façon a des plus et des moins, tu sais. On dit que par courriel, ça peut tomber dans les spams. Ça prend évidemment l'adresse courriel. Ils disent que ça peut donner des fois un mauvais feeling par courriel. Bon, sur le site web, ils disent que c'est moins visible, donc les clients doivent finalement l'apprendre d'une autre façon pour finalement aller sur le site web, parce que c'est maintenant avec les applications, c'est rare qu'on va vraiment sur le site web d'une compagnie. Là. Mais sur le site web, c'est ça, il peut quand même avoir, comme je disais tantôt, une fac, des numéros pour des hotlines. Ensuite de ça, ben il y a comme Revenu Canada a fait là, dernièrement par la poste. Donc ça, c'est sûr que c'est direct. On a, tu sais, les risques de phishing sont moindres. Mais c'est quand même plus cher, mais on rejoint pas mal tous les clients potentiels de cette façon-là si on a leur adresse postale, je veux dire, un peu indépendamment là, de leur tranche d'âge.
Considérant aussi que les adresses sont valides.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça qu'ils disent. Là, c'est ça, ça prend des adresses valides. Ouais. Après ça, par téléphone, ben là, ça prend des ressources là, du monde. tu sais, 150 personnes qui sont au téléphone puis qui appellent tout le monde, puis là, ben, tu sais, on a-tu le bon numéro, la personne, es-tu pas là, es-tu là? Là, les gens peuvent avoir des questions, faut les rassurer. Là, ça vient comme plus personnel, mais en même temps, ça peut être plus positif. Donc, ça, c'est des méthodes directes. Maintenant, dans les méthodes indirectes, on a, ben, par les réseaux sociaux. Puis là, ben ça peut être dangereux justement pour une genre de tempête. Eux autres, ils parlent de Twitter Storm. Puis là, ben là, ça peut s'amplifier. Ensuite de ça, ben ils disent que c'est ça, par les médias traditionnels, c'est un peu comme je vous disais tantôt, c'est que là, mettons, je sais pas si je fais une entrevue, par exemple, pour annoncer une brèche de ma compagnie, ben là, ça se peut que le média il retienne juste un bout de phrase qui fait son affaire. Puis que lui, il va comme aller remettre du texte par là-dessus, son point de vue à lui, puis que mon message ne sera pas entendu pendant tout. Là. Fait que ça, il disait finalement là, que le média traditionnel, c'était plus ou moins bon. Puis évidemment, ben là, c'est ça, il faut se préparer à une réaction. Parce que là, les gens, ils vont appeler, ils vont demander du suivi, tout ça. Donc là, c'est important que le personnel de la compagnie soit mis au courant de la situation. Puis ça, je serais curieuse de vous entendre là-dessus parce que souvent même, moi je pense que c'est un manque de communication des fois. Donc il y a beaucoup de communication vers le public, mais à l'intérieur de la compagnie, il y a peu de communication. Vous autres, c'est quoi votre avis là-dessus?
Mais ça dépend. Je veux dire, la majorité des entreprises à l'interne ont des problèmes de communication par défaut. Fait que c'est sûr qu'en temps de crise, ça doit être plus intense. Je suis pas mal sûr que tout le monde où ce qui travaille voit des problématiques juste pour diffuser les règles à l'interne, comment ça fonctionne, comment rapporter des problématiques internes, que ce soit des attaques. Fait qu'en mode communication externe, je pense que tu as raison. Là. Steve?
Ben, j'ai vu les deux. Au gouvernement, ça, c'était pas rare que tu apprenais un incident à l'intérieur de ton propre ministère puis ça sortait aux nouvelles avant qu'il y ait un message qui descende à l'interne. Ça dépend de la grosseur de l'organisation souvent. La culture change aussi avec le temps parce qu'encore une fois, on part des années de la guerre froide, j'aime ça dire ça de même parce que c'est les années 60, 70, 80 que encore une fois, c'était masqué sous un voile vraiment très opaque et c'était juste on a need to know basis, donc sur le besoin de savoir seulement. Et aujourd'hui, ben c'est de plus en plus transparent. Comme tu disais, Virginie, tu as beaucoup plus d'outils qui existent pour être capable de communiquer. Et ils peuvent pas s'en sortir, ben ça va fuir une moment donné. Déjà là, juste en prenant l'exemple des employés qui sont à l'interne avec leur propre téléphone cellulaire, donc ils ont accès à l'Internet, la compagnie peut pas nécessairement filtrer que le message sortira pas en public. C'est impossible qu'ils gardent ça caché. Donc, c'est la stratégie est la meilleure de divulguer et de le faire sur une base la plus honnête possible. Et quand c'est dit à l'interne, ben souvent, ben c'est accompagné de lignes directrices pour dire, ben voici, comme tu disais, Pat, il y a une équipe de communication, c'est eux qui s'occupent du message officiel. Si on pose des questions référées à cette section-là, à cette gang-là, ce qui est normal. C'est pas pour faire filtrer l'information dans le sens de cacher, mais que ce soit un message unifié commun qui sort, tout simplement. Mais c'est dur à dire parce que quand c'est... si on reprend l'exemple avec l'Institution financière du Québec l'an passé, j'en ai reçu de l'interne comme on apprenait par les nouvelles. Puis ce qui se disait à l'interne, là, c'était vraiment pas édifiant. Alors qu'il y en apprenait encore une fois beaucoup plus par les médias publics. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir que dans un avenir, tu sais, ils ne mettront pas le plan au grand jour, c'est normal. Mais à chaque crise qui arrive, on apprend un peu plus sur chaque compagnie, comment ça se passe à l'interne. Puis des fois, on voit que c'est vraiment du n'importe quoi dans le sens qu'ils jouent aux pompiers. Ils font pas de prévention, ils vont vraiment juste à la réaction et après ça, ben c'est l'émotif qui rentre dans le jeu. Puis quand c'est de l'émotif, ben là, ben ça, le monstre c'est des tomates. Là.
Ouais. Donc c'est ça pour la préparation de la réaction. Là. Ils disent que c'est important de vraiment préparer tout ce qui est au niveau de la téléphonie, donc de recevoir plusieurs appels. Puis c'est ça, là, de mettre, comme je disais tantôt, un site web là, prêt pour les gens qui visitent. Ensuite de ça, ben c'est ça de s'attendre à avoir énormément de demandes de la part des médias, puis de leur répondre, comme Steve disait, d'avoir un comité qui est responsable de communiquer avec les médias, puis c'est eux autres qui c'est juste eux autres qui vont répondre aux demandes. Mais des demandes, il va en avoir beaucoup, fait qu'il faut être prêt à répondre à ça, parce que quand on répond pas dans les médias, au début, ça peut être acceptable, mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, on n'aura pas le choix. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle.
Oui, exact. Puis le point de scale-up est important. Là, Si vous êtes une grosse entreprise avec des millions de clients, la réponse va être énorme. C'est sûr que les systèmes peuvent tomber parce que tout le monde va aller voir puis va vouloir essayer de demander des questions, etc. Je pense que c'est quoi cette semaine? Il y a eu des examens dans une école, puis c'était des examens en ligne, puis le système a crashé durant les examens parce qu'il n'avait pas pensé qu'il allait avoir autant de monde dans leur examen. Fait que, tu sais, même concept, là. Quand tu as un nombre de clients X, ben, faut que tu aies un fois plus parce que tu vas avoir de l'attention média, etc. Là. Fait qu'au minimum, supporter ton nombre de clients, puis après ça, en rajouter. Ouais.
Puis c'est ça, il dit aussi là, que c'est important de mettre des mesures en place là, pour être sûr qu'il n'y ait pas pendant, parce que veut pas une compagnie comme ça qui subit une crise, qui subit une brèche de données, que là, qui est en réaction, est quand même plus vulnérable à d'autres types d'attaques qui peuvent s'en venir en même temps. Fait qu'il y en a des fois qui pourraient profiter de cette opportunité-là pour faire des attaques de phishing, par exemple, envers les employés. Puis ça pourrait fonctionner. Fait que c'est important qu'il y ait des bons, que les employés soient briefés, puis qu'ils soient beaucoup sensibilisés à ça. Là. Fait que ça, c'est quelque chose sur quoi qu'il faut faire attention. Et finalement, ben là, c'est comment qu'on va délivrer le message. Donc, une fois qu'on est bien préparé, qu'on a décidé finalement de déclarer, qu'on a bien construit le message, qu'on a décidé quand qu'on allait le faire, puis qu'est-ce qu'on allait dire, puis qu'on est prêt pour la réaction du public, ben là, maintenant, on va donc livrer le message. Donc, c'est important que ça soit quelqu'un d'une très grande importance dans la compagnie qui va délivrer le message. Eux autres, ils disent CEO. Donc, c'est important, tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un aux relations publiques qui va prendre la parole puis qui va dire, ben écoutez, on vient de subir un événement de sécurité. Il faut que ça soit quelqu'un d'importance dans la compagnie. Ensuite de ça, il faut que ça soit compréhensible pour le commun des mortels. Fait que, mais ça, normalement, eux autres sont quand même bien outillés pour être capables de livrer le message. Il faut que ça reste très, très simple. Il faut que aussi que ce soit bien dit que c'est une situation de crise pour que les gens comprennent que la situation est importante, puis pour pas après que ça soit escaladé. Donc, si par exemple, je sais pas moi, c'est quelqu'un justement de la communication qui prend la parole pour l'annoncer, puis que là, finalement, la situation, ben, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de grave, puis que là, plus tard, ben là c'est le président de la compagnie qui vient prendre la parole, ben là, il y a comme une escalation. Faut pas que ça arrive, ça. Faut qu'en partant, ça soit tout de suite le plus haut niveau qui prenne la parole. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à présenter sur le framework. En tout cas, moi, à chaque fois que je lis, il y a quelque chose d'autre que je comprends de plus, mais tu sais, il y a quelque chose qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est super pertinent, puis je pense que tout le monde aurait avantage à lire ça, puis à intégrer certains composants, là, ou à sensibiliser les gens, finalement, à l'existence de ce framework-là, là, c'est bien intéressant.
Oui, tout à fait, j'approuve, puis tu sais, juste l'image du framework, il y a énormément de stock dedans, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on fait en deux jours, là. Il y a énormément de préparation qui va dans ça. Puis même, je rajouterais, je sais que c'était pas dans leur scope, mais tu sais, la partie après tout ça, là, le débrief, puis ajuster le processus.
Les normes actuelles.
Ouais, exact, de revoir, tu sais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné pour ajuster votre processus est aussi très, très important. Ce qu'on a parlé souvent dans les podcasts dans la dernière année, c'était les post-mortem technologiques, tu sais, très techniques. Ou ce que l'entreprise, ben je sais pas moi, il y a eu une base de données qui est allée offline, le système n'était plus fonctionnel. Ben ils ont dit exactement qu'est-ce qui était le problème puis comment qu'ils l'ont réglé. Tu sais, au niveau très très technique, ce qui est la partie après que tu viens de dire, là, le message qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, très vulgarisé. Mais le côté technique après est important aussi là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, ça fait-tu du sens, puis en plus ça permet de partager les connaissances à autres. Aux autres entreprises pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Fait que ça peut être intéressant aussi. Mais non, vraiment, vraiment super. Puis je pense que, comme tu dis, Virginie, il y a beaucoup d'entreprises et de personnes, je pense, qui devraient lire et appliquer ça. Là.
Ce qui est le fun, c'est que c'est la première recherche sur le sujet. Fait que j'imagine que là, ça va stimuler peut-être le domaine au niveau universitaire, puis il y a d'autres gens finalement qui vont peut-être se pencher là-dessus. Ça, c'est comme le premier qui est dédié à ça, mais c'est prometteur.
Ouais, exact. Puis c'est sûrement par région aussi. Évidemment, il y a des tendances plus culturelles d'un pays à l'autre. Là, fait qu'il va sûrement avoir des ajustements sur certaines parties à cause de ça.
Oui, c'est ça. Lui, il est très, très anglais. Donc, les cas, c'était des cas qui ont touché des, comme je disais tantôt, des citoyens anglais. Puis, tu sais, se sont vraiment penchés, là. C'est vraiment anglais. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes leçons à tirer de
ça. Ben oui, ça nous rejoint beaucoup ici, là. Ça, c'est certain. Steve, dernier commentaire.
Ce sont des méthodes de travail que ça vient raffermir, mais aussi améliorer notre quotidien. Parce que quand on est préparé à anticiper un incident, on vit beaucoup mieux l'incident après coup que pendant, alors qu'on développe les méthodes et la communication qui va avec. La preuve, en pleine pandémie qu'on est présentement, oui, j'ai dit qu'il y a des organisations que ça en était dans des scénarios, mais il était dans le bas de la liste comme le plus improbable que ça peut arriver. C'est celle-là qui, présentement, on vit à chaque jour. Donc, c'est en TI, c'est essentiel que c'est pas une question de si, mais bien de quand qu'un incident malheureux peut arriver. Et avec un tel genre de cadre de travail, un framework, bien, ça peut nous aider, justement, à passer au travers plus facilement.
Excellent. Merci encore, Virginie. Vraiment intéressant. Puis, j'espère qu'on va pouvoir en reparler, en fait. Puis, si nos auditeurs ont des questions, des suggestions ou quoi que ce soit par rapport à ça, envoyez-nous un courriel, écrivez-nous sur le Discord ou autre. Donc, merci encore Virginie, merci Steve et à la prochaine tout le monde.
Merci. Thank you.